France Culture.
Les nuits de France Culture. En 1998, dans le dernier numéro d'une série des Chemins de la musique qu'il consacrait à la musique concrète, qui avait 50 ans, Christian Rosset posait la question. Que restait-il de cette musique en 98, de l'esprit pionnier qui, dans les studios de la RTF, après-guerre, avait présidé à son émergence autour de son inventeur, Pierre Schaeffer, et à la fondation du groupe de recherche musicale l'institution qu'elle avait engendrée. Pour le savoir, il interrogeait les compositeurs Luc Ferrari, François Bayle et Daniel Teruggi. À l'écoute de cette émission, qui faisait entendre de nombreux extraits de compositions concrètes ou électroacoustiques, on notera qu'aux questions qui leur étaient posées, ces trois compositeurs apportaient des réponses très contrastées. Luc Ferrari, qui avait quitté le GRM dans les années 60, se démarquant nettement de François Bayle, qui avait dirigé le GRM durant plus de 30 ans, et de Daniel Teruggi, qui venait d'en prendre la direction après lui. Les chemins de la musique, la musique concrète à 50 ans, cinquième et dernière partie, attitude concrète aujourd'hui, une émission diffusée le 13 février 1998 sur France Culture.
La musique concrète à 50 ans. Cinquième parcours, attitude concrète aujourd'hui. Avec la participation de François Bayle, Luc Ferrari et Daniel Teruggi, compositeurs. Yanis Xenakis, Bohor. Daniel Teruggi, musique concrète, est-ce que c'est un mot qui a toujours un sens maintenant ? Est-ce que ça en a eu un ?
Il y a 50 ans, on commençait effectivement la musique concrète, qui a beaucoup marqué les esprits, beaucoup été signalé dans les livres d'histoire, à tel point que, pour beaucoup de gens, le GRM est quelque chose qui a commencé en 48 et s'est terminé très peu de temps après. Et la seule chose qu'on devrait à ce mouvement, ce serait l'étude du chemin de fer et la symphonie pour un homme seul. Après, que ce soit l'électronique, l'électroacoustique, on a un peu pris le devant de la scène et on a petit à petit laissé tomber le mot concret. On va parler des musiques concrètes. Il y a eu des compositeurs qui ont continué à revendiquer une attitude concrète. Ou des gens comme Chion qui disaient ouvertement dans leur notice que c'était une œuvre de musique concrète. Mais ce mot renvoyait, et je crois aujourd'hui même, renvoie à une période bien précise du début de l'aventure, en grosso modo entre 48 et 58. Avec les 50 ans, ce mot revient, pas à la mode, mais tout le monde en parle maintenant, de musique concrète. Et c'est comme si on avait découvert quelqu'un qui était mort depuis 50 ans et que tout d'un coup redevient vivant. Et on s'est dit, tiens, la musique concrète est là. Moi, je suis pour, et peut-être je suis le premier à le dire. Pourquoi ? Parce que je pense que dans ce revival, il y a la conscience qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Et qu'on est conscient qu'aujourd'hui, on parle de musique concrète en faisant allusion à une période historique du passé, mais tout en signalant, regardez, cette histoire qui est commentée il y a 50 ans, dure jusqu'à nos jours, et nous avons tout devant nous, dans nos mains, pour qu'elle continue dans le futur. Thank you.
Pierre-Henri, l'homme à la caméra.
Quand on dit la musique concrète à 50 ans,
François Bell,
ça veut dire qu'elle entre dans son deuxième demi-siècle. Voilà, c'est comme ça que j'annonce et que je provoque.
On ne fait pas de bilan alors.
Si, on peut faire un bilan, mais je veux dire, elle a su traverser 50 ans. Autrement dit, ce n'est pas une petite chose. C'est un mouvement très fort, très profond. C'est une lame de fond qui retourne de façon irréversible la situation. Et en disant aujourd'hui elle a 50 ans, on fait le constat de la force de cette lame de fond, et en même temps on s'aperçoit, oh surprise, que cette lame est loin d'être affaiblie, et qu'elle est au contraire plus forte que jamais, c'est-à-dire qu'elle entre avec une espèce de force tranquille dans son deuxième cinquantenaire, comme si de rien n'était, comme si elle venait de naître.
François Donato, Roses and Chains. Ferrari, nous sommes donc en 1998. Est-ce que le mot musique concrète a encore un sens, ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler d'attitude concrète ou d'attitude de compositeur par rapport à... C'est ça qui serait resté permanent, disons, et qui pourra continuer cette question d'attitude beaucoup plus qu'une terminologie.
Moi, je ne pense pas que ça ait un sens. Je pense que le mot concret, il a perdu son sens.
Et c'est dû à quoi ?
Au temps, hein. 50 années, c'est pas innocent.
Donc c'est lié à une avant-garde. Quand l'avant-garde est finie, le mot disparaît.
Oui, parce que maintenant...
Même qu'on peut pas être surréaliste maintenant ou cubiste, c'est ça ?
Bien sûr, il y a des attitudes qui sont concrètes. Il y a des attitudes qui sont surréalistes. Mais c'est un moment tout à fait particulier qui a favorisé la naissance de ces choses-là. Et maintenant, je pense que la musique concrète, c'est une époque. Elle est inscrite dans l'histoire. Et maintenant, on fait autre chose. Quand je dis, par exemple, une œuvre pour piano et bande magnétique, je suis déjà gêné parce que la bande magnétique n'existe plus. Le DAT, c'est déjà sur le point de se terminer. Si je dis pour piano et CD... Ça a l'air bizarre, personne ne comprend. Alors moi, maintenant, je dis son mémorisé. Son mémorisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a entré dans une machine, ou une bande magnétique, ou un support quelconque, ou un disque dur, des sons qu'on a composés avec, et on fait ça. Mais c'est déjà démodé. Donc comment on peut appeler les choses encore musique concrète ? Maintenant, je pense que c'est difficile.
Alain Savouret, sonate baroque.
L'hétérogie, la musique concrète, la musique électroacoustique, la musique acousmatique, enfin tous ces synonymes plus ou moins équivalents, a envahi le monde. On trouve des studios de recherche et des compositeurs un peu partout. Vous-même, vous êtes d'origine argentin. Est-ce que vous pourriez caractériser les ressemblances et les différences, comme ça assez brièvement, puisqu'on n'a pas le temps malheureusement, entre les différentes écoles, si on peut parler d'école, ou d'individualité, qui sont éparpillées comme ça de par le monde?
C'est bizarre, parce que historiquement, il y a eu des lieux d'émergence, comme c'était Paris, comme c'était Cologne, où la chose est sortie un peu naturellement, ça a poussé de terre, comme ça. Quelques années plus tard, ça a commencé à pousser partout. Pologne, États-Unis, Amérique du Sud, Italie. Sans qu'il y ait une vraie filiation. Sans que ces deux groupes initiaux se soient proposés de créer des groupes dérivés ou en rapport. Ce qui fait que finalement, dans beaucoup de pays, il y a eu ce qu'on appelle des pionniers. Qui ont opposé des points de vue parfois similaires, parfois très lointains, et même des dénominations complètement différentes. On parlait de tape music aux États-Unis, on ne parlait pas de musique concrète. Et ces studios ont permis l'émergence de compositeurs. Dans certains cas, ces compositeurs se sont un peu effacés devant leur œuvre. Dans d'autres cas, ça a permis à des gens d'émerger, de développer des personnalités, de rayonner, d'une certaine manière. Cette histoire qui semble lointaine maintenant qu'on se place dans la perspective de 50 ans n'est pas si lointaine que ça. Je veux dire que ces studios, pour une bonne partie, existent encore. C'est-à-dire on continue, on crée une espèce de tradition individuelle et qui par la suite, dans beaucoup de cas, commençait à se lier avec d'autres traditions existantes. Alors, il y a une première génération, c'est 48-50, deuxième génération, milieu des années 50. Troisième génération, années 70, là on a multiplié à chaque fois, c'est une quantité exponentielle de la précédente, où il a commencé, fin des années 70, début des années 80, à avoir des quantités de studios généralement structurées autour de 2-3 compositeurs, 2-3 personnes qui s'intéressaient, parfois n'étaient pas compositeurs. Alors maintenant, on assiste depuis aussi 3-4 ans à une nouvelle révolution, une nouvelle éparpillement où les structures deviennent de type individuel. Et en ce moment, on ne parle plus de groupe, de rien du tout. Un compositeur décide d'acheter de l'équipement pour faire sa musique.
Ça coûte quand même assez cher, non? Combien on peut évaluer, si c'est possible, le coût d'équipement?
Pour travailler correctement, ça ne coûte pas plus cher qu'un bon piano. Si vous achetez un Steinway pour faire vos gammes parce que vous décidez d'être pianiste, ça ne vous coûte pas plus cher que d'acheter un studio. Donc
c'est à portée de beaucoup de monde.
À la portée, il faut investir, ou ça ne coûte pas plus qu'une bonne bagnole, sous de 100 000 francs, un truc comme ça. C'est une dépense, d'accord, c'est un investissement, mais il faut le voir comme l'investissement. On récupère, de certaine manière, à travers le travail, tout ce qu'on investit. Donc on voit, bon, on ne peut pas aller plus loin. Parce qu'après que tout le monde aura son studio, sauf avoir 2 studios ou 3 studios chacun, je ne vois pas où on peut aller.
Christian Zanesi, courir.
Même en ce moment, on peut dire que toute la musique est concrète, que toute la musique est électroacoustique, tout simplement parce que toute la musique, dans son activité massique, s'entend à travers des microphones, à travers des haut-parleurs, à travers des plans, à travers des images, à travers des complexes colorés. Et qu'on a très peu, maintenant, on a très peu idée de ce que peut être la musique au sens ancien du terme, et que nous sommes rentrés dans une nouvelle civilisation. Mmh.
Daniel Thirougier, vous avez pris la suite de François Bell donc, pour diriger une institution qui est le GRM, le groupe de recherche musicale. Est-ce que cet esprit pionnier qu'il y avait donc en 1948 avec Pierre-Henri, Pierre Schaeffer, peut continuer dans le cadre d'une institution? À la fois, une institution permet de réaliser des choses, de réaliser des œuvres, d'avoir un cadre de diffusion et de production, mais est-ce qu'on peut toujours garder un esprit comme ça de recherche permanente?
Je ne sais pas si l'esprit est le même. J'aurais tendance à dire oui parce qu'on est toujours là et non parce que les temps sont radicalement différents et les temps futurs seront aussi radicalement différents. Et qu'il y aurait une difficulté permanente à repositionner une institution avec tout ce qu'elle traîne derrière dans les temps qui changent.
Finalement, ce qui est resté permanent pendant ces 50 ans de musique concrète, c'est l'idée qu'il puisse y avoir des groupes.
Oui, oui, oui. C'est l'idée du groupement qui est intéressante. C'est-à-dire que, et c'est Schaeffer qui le dit dès le départ, c'est que l'aventure dans laquelle il se sentait embarqué dépassait les possibilités d'une seule personne ou les compétences d'un seul individu. Et qu'il était nécessaire de rassembler plusieurs individus d'orientations différentes, de points de vue différents, de spécialités différentes, de sorte à pouvoir réfléchir sur un produit qui se crée constamment. Et donc, beaucoup de groupes ont existé, beaucoup n'affichent pas cette dénomination, bien qu'elle était à la mode il y a une trentaine d'années, mais l'idée que des gens réunissent des volontés ou des moyens pour faire avancer une réflexion est une idée héritée de cette musique concrète.
Denis Dufour vocalise.
Bien de parler d'esthétique, parce qu'on a souvent des clichés sur l'esthétique de la musique électroacoustique qu'on relie au fond à...
On ne sait pas encore la lire. Pour le moment, on la subit. Tout le milieu musical se dit c'est une maladie de jeunesse. Un jour, on va se réveiller guéri et on sera purgé de cette espèce de crise de boutons. Et tout le monde espère que cette affaire va disparaître comme elle était venue. Bon, en réalité, il n'en est rien. Ce qui risque fort de disparaître, c'est plutôt la musique d'avant. Et d'ailleurs, ce serait dommage, mais ce n'est pas ça que je demande. C'est plutôt que, tel le cinéma par rapport au théâtre, chaque art vive sa vie dans cet espace nouveau qu'il a su se créer. Et naturellement, c'est ce qui se produit. Naturellement, au début de ce deuxième cinquantenaire, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a un milieu qui est toujours aussi hermétiquement fermé, le milieu des spécialistes, le milieu des professionnels de la musique, qui est toujours aussi fermé qu'avant, aussi fermé qu'au premier jour. Mais je vois que ça n'a d'ailleurs aucune importance parce que une population énorme, une énorme ruche, une fourmilière extraordinaire, en 50 ans s'est constituée et qu'il y a des milliers de compositeurs, des milliers d'œuvres, des concours, c'est un monde parallèle.
Denis Mollet, Empty Vessels.
je me pose souvent la question du GRM en tant que structure et de la présence du studio au sein du GRM. Et on pourrait me poser la question, bien fondée, de à quoi servent vos studios ? Pourquoi est-ce que vous avez besoin encore de garder des studios pour faire des musiques ? Et je pense que ces studios seront de plus en plus fondamentaux. Pour la raison initiale. Parce que on a eu besoin au départ de grouper les gens et leurs compétences pour développer la musique. Maintenant, on a besoin de regrouper les gens pour en parler, pour créer des contacts, pour créer des liens. Et parce que cet éparpillement de studios crée un isolement d'individus, et il est de plus en plus important qu'il y ait des lieux où les gens puissent se rassembler, puissent comparer, puissent mettre en rapport leurs différents apports. Alors, en disant ça, je veux dire aussi que je trouve partout dans le monde, je peux signaler des gens ici et là, avec lesquels je sens qu'il y a une bonne circulation d'idées et qui viendraient très facilement. D'autres iraient ailleurs, comme c'est ce qu'a fait l'IRCAM, qui s'est aussi posé dans ce type de situation, de créer, être un lieu où les gens passent, mais où les gens ne restent pas forcément, parce qu'ils sont très bien chez eux.
Régis Renoir-Larivière, Futaie.
François Bell, nous avons évoqué dans la première émission l'esprit pionnier de la musique concrète, donc il y a 50 ans. Nous sommes en 1998. Vous nous disiez que nous ouvrions, disons, un deuxième cinquantenaire, et donc peut-être même, un millénaire.
Le coup est parti.
Mais la vraie question, c'est que reste-t-il de l'attitude concrète ? Est-ce qu'il y a une attitude concrète qui serait finalement permanente et des œuvres qui évolueraient en fonction de la technologie et du temps ?
Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est une grande division de la pensée humaine. Il y a les tenants de la volonté, je dirais les scientifiques, et puis il y a les tenants de la perception, c'est-à-dire les gens qui pensent qu'il n'y a pas de volonté sans perception antérieure. Regardez, prenez Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, c'est notre père à tous, les perceptifs. Il est allé le plus loin possible dans l'attitude de recherche, dans tous les domaines, pas seulement la peinture, mais toutes sortes d'inventions, de machines, etc. Et il n'y a pas longtemps, un homme éminent dont j'ai perdu le nom a fait un livre sur Léonard de Vinci et passé à la radio, on le questionnait. Mais qu'est-ce que Léonard de Vinci n'a pas trouvé ? Il a posé la question, excellente question. Et la personne qui écrit ce livre a eu la bonne réponse, d'ailleurs tout de suite. Eh bien, Léonard de Vinci n'a pas trouvé la révolution copernicienne. Copernic vivait à la même époque. Donc Léonard de Vinci, en tant que perceptif, a tout trouvé, sauf que ce n'était pas vrai que le soleil tournait autour de la Terre. Pour lui, ça lui convenait très bien. Comme quoi l'attitude concrète, l'attitude perceptive, c'est une très belle attitude, très riche, mais qui peut aussi s'asseoir sur de grandes erreurs. L'attitude scientifique est moins créative, mais elle est indispensable. Parce que quand même, je trouve que nous vivons mieux, c'est mieux que nous sachions que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, même si on n'en a rien à faire dans notre activité quotidienne, qu'on pourrait très très bien avoir exactement la même si on pensait le contraire. Et c'est ainsi que l'esprit humain se divise en deux grandes familles, les perceptifs d'un côté, plutôt artistes, les scientifiques de l'autre, qui critiquent cela, et qui proposent d'autres modèles et des machines meilleures et qui vont interroger la réalité de façon plus profonde. Et ce qui fournit de nouveaux matériaux à la perception et ce qui relance la science plus loin. Je pense que ces deux attitudes, il n'y a pas à jouer l'une contre l'autre. Ainsi, pour conclure, je ne jouerai pas l'attitude concrète contre l'attitude a prioristique ou l'attitude volontariste. Je dirais que les concrets ont aussi leur style de volonté, que nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres.
Karlheinz Stockhausen, solo, version pour synthétiseur, sampler, sequencer et bande 8 pistes. Les chemins de la musique concrète à 50 ans, par Christian Rosset, réalisation Evelyne Gailloux, avec la participation de François Bell, Luc Ferrari et Daniel Teruggi, compositeurs.
Cette émission a été diffusée le 13 février 1998 sur France Culture.